Chapitre 23. Béni. Un énorme hématome déforme la moitié de mon visage, gonfle ma joue gauche. Chaque battement de paupière me fait souffrir. Ce n'est rien. Il y a pire. Tellement pire. Le si beau visage de Nina a été balafré. Elle en gardera à jamais une grande cicatrice, du bas de son œil droit au coin de son sourire. Si elle sourit à nouveau un jour. Un centimètre de plus, et c'est borgne qu'elle devenait. Pourtant, ni elle ni moi n'avons émis la moindre plainte, le moindre soupir. Il y a pire. Tellement pire. Steve, lui, ne pourra plus jamais souffrir. Ne pourra plus jamais se trouver laid dans un miroir. Ne pourra plus jamais interpeller une fille avec son sourire édenté. Stevie est parti rejoindre Maya dans son royaume des êtres volants. Devant moi se tiennent mes trois juges. Boccolini, une éduque de l'ASE jeune et autoritaire, et un psy vieux et taiseux. Comme s'ils étaient allés chercher la plus féroce de toutes les fonctionnaires des services sociaux du département et le moins faiseur de vagues de tous les psychologues. Ces trois derniers jours, j'ai vu des flics pendant des heures, la juge des enfants plusieurs fois, des psys bien entendu. Un vrai défilé, mais cette fois c'est le verdict. Les jurés vont parler. S'ils savaient à quel point je me fiche de ce qu'ils vont décider. C'est Boccolini qui s'y colle. Il tire sur sa cravate, rajuste son costume couleur de deuil et s'enfonce dans son fauteuil. On est dans son bureau, il a juste un peu déplacé les meubles pour que la pièce ressemble à un tribunal. Moi, seule sur ma chaise, dos à la porte, et les trois magistrats derrière l'unique bureau face à moi.
Mademoiselle Crochet.
Commence-t-il, comme s'il avait oublié que je m'appelle Ophélie.
Après les événements récents, je ne peux pas vous garder à la prairie.
Je n'écoute pas le reste de ses arguments, la peur des autres enfants, les craintes des parents. Je ne veux penser qu'à Stevie. Stevie en vie. Stevie aurait pu avoir un autre destin s'il était né dans un autre quartier. Stevie aurait pu s'intéresser à l'école si on l'avait motivé. Stevie était ingénieux, curieux, courageux. Stevie aurait pu bosser dur si quelqu'un avait cru en lui. Stevie aurait pu étudier, passer des examens, les réussir, même sans tricher. Stevie aurait pu devenir ingénieur ou professeur. Stevie avait en lui un tel appétit de tout apprendre, de tout comprendre. Il avait en lui cette folie que seuls possèdent les premiers et les derniers de la classe. Stevie aurait pu avoir une belle vie, un beau métier, fonder une belle famille, des gosses avec chacun une chambre, loin du quartier où il était né. Stevie aurait pu avoir une belle vie, s'il ne m'avait pas croisée.
Mademoiselle Crochet, vous nous écoutez ? Je vous disais donc, on ne va pas pouvoir vous garder à la prairie. Je pense que vous avez conscience de la gravité de vos actes. Madame Schneider, ici présente, représentante de l'aide sociale à l'enfance, vous a trouvé une place dans un institut de rééducation. La juge des enfants a donné son accord. Il nous paraît important que vous soyez éloignée des autres enfants de la prairie, en particulier de Nina Corsi, et que d'autres éducateurs que ceux qui vous ont élevé prennent le relais.
Monsieur Boccolini, devant moi, est en train de redevenir brocoli. Un légume. Sauf que ce coup-ci, ce ne sont pas les enfants qui crient trop fort qui lui font peur. Ceux qui insultent les adultes, menacent de tout casser, ou de se casser. Non, c'est de Madame Schneider, de l'ASE, son unique financeur, dont il a une trouille bleue. Il a peur du scandale, de la mauvaise réputation, du qu'en dira-t-on dans le petit monde des foyers pour enfants perdus. D'ordinaire, son mot d'ordre, dès que quelque chose va de travers à la prairie, une éduque qui se fait bousculer, un petit qui se fait agresser, c'est que rien ne doit sortir de la maison. Pas de plainte, pas de vague. Et badaboum. Non seulement la plus givrée de ses pensionnaires met au point un vol en bande organisée, entraîne sa copine de chambre, provoque l'accident mortel d'un troisième mineur, mais elle ne trouve rien de mieux que d'aller cambrioler la maison de Richard Vidame. Le grand patron de l'aide sociale à l'enfance. le supérieur hiérarchique direct de Madame Schneider. Celui qui a pouvoir de vie et de mort sur la prairie. D'ailleurs, Madame Schneider lui lance un sourire de crotale.
Nous ne vous reprochons rien, Monsieur Boccolini, ni à vous ni à vos collaborateurs. Vous avez une obligation de moyens, pas de réussite. Nous savons à quel point votre tâche est délicate. J'ai cependant reçu des instructions précises et...
Une nouvelle fois, je ne l'écoute plus. Des instructions précises? Est-ce Vidame qui les a données? Il ne s'est pas déplacé. Je ne l'ai pas rencontré. Pourtant, il a forcément fait le rapprochement entre la gamine de foyer qui s'est introduite chez lui et l'Ophélie de l'immeuble Sorano, du temps où il s'occupait de la famille Crochet. S'il ne s'est pas déplacé, si aucun flic n'a mentionné devant moi ce lien avec mon passé, et encore moins l'hypothèse d'une vengeance après la mort de ma mère, c'est donc que Vidame n'a rien dit. Et s'il n'a rien dit, c'est donc qu'il a quelque chose à se reprocher. Pour ces idiots de policiers, mon seul lien avec les Vidame, c'est Consuelo, la fille de ma classe qui m'avait invitée à son anniversaire. C'est là que j'ai eu l'idée de voler les chats. Une idée stupide, oui, oui, monsieur le commissaire, je le reconnais. Au moins une chose est certaine, je ne remettrai jamais les pieds à Camisset. Oui, oui, si j'avais su, monsieur le commissaire, je vous jure, je regrette. Je regrette que tout ait foiré. Je regrette que Stevie soit mort pour rien. Je regrette que Richard Vidame s'en sorte, sans une égratignure, juste quelques chats angora dans la nature, et que nos vies à Nina et à moi soient foutues, sans futur. Je regrette parce que j'ai échoué, parce que désormais Vidame va se méfier, va m'écraser comme une vulgaire petite araignée qui a essayé de tisser sa toile chez lui, au Montfortin. Je regrette parce qu'il va continuer de profiter de tout ce qu'il m'a volé, alors que j'ai tout perdu.
Mademoiselle Crochet.
Madame Schneider frappe avec son stylo argenté le bureau de bois de Boccolini.
Mademoiselle Crochet, vous vous rendez compte que votre attitude, ce petit air de ne pas vous sentir concernée, aggrave encore votre cas? Vous êtes responsable de la mort d'un enfant qui avait votre âge. Comprenez-vous?
Le dégonflé de psy assis à ses côtés a un petit quai, mais n'a rien dit. Madame Schneider poursuit son couplet. Je suis sûre qu'elle a été envoyée par Vidame et qu'elle a bien été briefée.
Je préfère vous prévenir, mademoiselle Crochet. La liberté, l'impunité, c'est terminé. Vous n'irez pas en prison, vous le savez aussi bien que moi, mais les éducateurs de l'Institut de rééducation ne vous feront aucun cadeau. Quand on commet un crime, mademoiselle Crochet, qu'on soit mineur ou non, on doit payer.
Le vieux psy lève les yeux au ciel. C'est visiblement le plus courageux acte de résistance dont il soit capable. Boccolini, lui, hoche la tête en cadence à chaque syllabe scandée par Madame Schneider. Quand elle a enfin terminé son réquisitoire, il se sent autorisé à parler avec la même autorité, et même, étrangement, à me tutoyer.
Tes affaires sont prêtes, Ophélie. Tu prendras ta valise dans le couloir et tu partiras avec Madame Schneider. Deux éducateurs de l'Institut de rééducation t'attendent devant l'entrée.
Je sais, mes affaires sont prêtes. Ce n'est pas bien difficile. Toute ma vie tient dans un sac à dos. Pendant que j'étais auditionnée par les policiers, Broccoli a fait le tri dans ma chambre, histoire de se venger lui aussi. Il n'a gardé que ce qui pouvait rentrer dans un sac et a jeté à la poubelle le reste. Mes dessins, mes cahiers, les lettres de Lazare, mes derniers jouets, mes habits trop petits, le renne que Nina m'avait offert à Noël et même la boîte à chagrin, ma coccinelle. Je l'ai cherchée partout sans la retrouver. Je n'ai pu récupérer que mon livre rouge et or, parce que Nina a eu le réflexe de le cacher. Nina que je ne reverrai peut-être plus jamais.
Tu as entendu ?
Insiste Broccoli.
Tu peux te lever. C'est terminé.
C'est terminé. Je sais. Je l'ai compris depuis longtemps, Broccoli. J'ai 13 ans et déjà tout est terminé. Je vais me lever, je vais laisser les deux gorilles de l'Institut de rééducation m'emmener. Tout le monde a l'air soulagé. Ramponneau, le psy, range ses papiers. Madame Schneider serre la main de Boccolini, elle a l'air pressée. Brocoli prend le temps de sortir une pastille d'une petite boîte en fer. Un truc à la menthe anti-stress. La porte du bureau claque à ce moment-là. Nous nous retournons tous, comme quand quelqu'un arrive en retard en classe. Des pas lourds écrasent le parquet. Une voix s'élève. Elle explose dans la pièce, à en faire vibrer les fenêtres, comme le tonnerre avant l'éclair.
Ah, ça non ! Je ne crois pas !
L'éclair vient juste après. Un ordre laser que je ne discute pas.
Tu restes là, Follette. Tu ne dis rien et tu t'assois.
Brocoli a l'air d'avoir avalé sa pastille de travers.
Bénédicte ? Je vous croyais...
En congé maternité ?
Exploses-tu.
Eh bien, vous voyez, monsieur Boccolini, je suis revenue.
Madame Schneider jette à Brocoli un regard exaspéré qui signifie... Mais qui est cette folle qui vient de débarquer avec un ventre si gros qu'on croirait qu'elle va accoucher sur le bureau ? C'est quoi ce bordel ? Est-ce qu'au moins il y a un chef à la prairie ? Le psy lâche un sourire dans sa barbe. C'est visiblement le plus courageux acte de solidarité dont il soit capable. Boccolini comprend que s'il y a un moment où il doit faire preuve d'autorité, c'est maintenant ou jamais.
Vous n'avez rien à faire là, Bénédicte. Surtout dans votre état. Dans mon état, vous feriez mieux de m'apporter une chaise.
Personne ne réagit. Tu restes debout. J'aime autant. Dans les films, les avocats ne sont pas assis quand ils se lancent dans leur plaidoirie. Tu diriges ton doigt vers Brocoli, puis vers Madame Schneider, puis vers le psy qui semble tétanisé par ton index pointé.
Vous voulez foutre la vie de cette gamine en l'air, c'est ça ?
Brocoli doit sûrement piocher dans son manuel de survie pour manager une situation de crise. Il récite sa leçon bien apprise.
S'il vous plaît, Bénédicte, pas de scandale. De toutes les façons, vous arrivez trop tard. La décision a déjà été prise. À l'unanimité. Mademoiselle Crochet ne peut pas rester ici. Surtout après...
Tu te retournes vers moi.
Follette, va m'attendre dans le couloir.
Personne ne discute, même pas moi. Pendant que je me lève, je te vois tenir ton gros ventre à deux mains. Je sors doucement et je referme la porte plus doucement encore derrière moi. La suite, je ne l'entends pas. Mais tu me l'as raconté tant de fois. Madame Schneider semble excédée. Elle regarde sa montre pour bien montrer que la séance est terminée et qu'elle t'a fait une faveur en t'ayant écoutée.
Je suppose que vous êtes Bénédicte, l'éducatrice référente d'Ophélie Crochet. Vous étiez censée l'éduquer, ou au moins la surveiller. Vu les événements récents, je ne crois vraiment pas que vous soyez dans la meilleure position pour...
Tu exploses comme jamais. Madame Schneider paraît minuscule à côté de toi.
Pourquoi ? Pour défendre la vie d'une gamine ? Je la connais. Si elle part en IR, sa vie est foutue. Elle laissera tout tomber. Au milieu des délinquants, elle va forcément mal tourner. Elle a que 13 ans, merde ! 13 ans !
Madame Schneider a l'air sincèrement choquée.
Ne soyez pas grossière. On parle de la vie d'une gosse et vous parlez de politesse ?
Madame Schneider encaisse sans broncher. Mais Brocoli ne sait plus où se mettre. S'il pouvait entrer tout entier dans sa boîte de pastilles mentholées, il le ferait. L'employé de Vidame te défie du regard sans rien lâcher.
On parle de la vie d'une gosse qui a causé la mort d'un autre gosse. Ce n'est pas vraiment un ange, votre Follette, comme vous l'appelez.
Brocoli fonce dans la brèche ouverte et tente de profiter de l'argument pour reprendre la main.
Madame Schneider a raison. Ophélie est une ado difficile à gérer. Elle a déjà, si je peux dire, un sacré casier. Fugue, consommation d'alcool et de stupéfiants, fréquentation douteuse.
Tu fais un pas de plus vers le bureau, façon culbuto qui tangue sans basculer. Puis tu te retiens à la chaise la plus proche, tout en braquant Brocoli comme si tu allais le fusiller.
Vous avez lu son dossier ?
Tu te tournes vers le psy dont la seule préoccupation semble d'éviter de se retrouver dans le champ de tir.
Eh oh, Jean-Pierre, je te parle aussi. Vous avez lu son dossier ?
Le psy, tétanisé, opine de la tête. Tu enfonces le clou à coups de mot marteau.
Je vous fais un bref rappel. Son père a tué sa mère. Elle avait 7 ans et elle y a assisté en direct.
Un silence suit. Tu continues de tenir Brocoli en joue dans la mire de tes yeux furieux.
Elle a l'âge de votre fille, monsieur Boccolini. Imaginez une seconde, rien qu'une seconde, votre Laura. Oui, votre Laura qui vous embrasse tous les soirs, qui fait du patinage et de l'équitation, qui apprend si bien ses leçons. Imaginez une seconde si elle avait vécu la même chose. Sa mère assassinée sous ses yeux, par son père. Comment on peut survivre à ça quand on a 7 ans? Comment on peut vivre avec ça? Vous croyez que ça se répare par un simple claquement de doigts?
Tu laisses un instant Brocoli pour braquer ton regard sur le psy.
T'as pas été capable de leur dire, toi?
Jean-Pierre tousse dans sa barbe. Il se racle la gorge, tout un cérémonial avant de prononcer son premier mot. Mais tu ne lui en laisses pas le temps.
Follette n'est responsable de rien. De rien! Et nous sommes juste payés pour l'aider.
Brocoli en est resté bouche bée. Que tu puisses avoir mis sa Laura sur le tapis, la scier. Madame Schneider comprend qu'elle ne tirera rien de plus de lui et tente de répliquer.
Justement, c'est pour l'aider que...
Tu cries plus fort encore.
Vous allez m'écouter ? Je connais Follette depuis qu'elle a 7 ans. Elle a fait une énorme connerie, on le sait tous. Alors on a 2 choix aujourd'hui. Soit on l'enfonce encore plus, soit on tente de la tirer hors de l'eau. Et pour la tirer hors de l'eau, elle a besoin de ses repères, sa maison, ses amis. Et ils sont tous ici, à la prairie.
La trouille pousse Brocoli à réagir.
Non, Bénédicte, c'est trop dangereux de la garder ici. C'est moi qui ai pris la décision de me séparer d'Ophélie.
Tu le regardes encore, puis brusquement, tu craques. Tes yeux s'embuent de larmes. Rien n'est calculé, du moins, tu ne me l'as jamais avoué. Après la colère, tu te noies dans une rivière. Tu t'accroches à ta chaise. Tu trembles, proche de chavirer.
Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je m'excuse de m'être emportée, mais je connais mon boulot. Des gamines et des gamins, j'en ai vu passer. Des incasables, des irrécupérables. Mais Follette est une gosse différente. Elle peut s'en sortir, je vous le promets. Vous avez regardé ses résultats scolaires ? Ils sont en général catastrophiques, mais dès qu'elle décide de travailler, elle est capable d'être parmi les meilleurs. Cette gamine n'est pas foutue. Elle a un potentiel. Elle a juste besoin de temps et qu'on s'occupe d'elle.
Brocoli, Madame Schneider et Jean-Pierre le psy ont baissé les yeux vers mon dossier, comme pour vérifier mes notes et les commentaires des profs. Ils préfèrent encore affronter ta foudre que leur propre culpabilité. Au bout d'un long moment, Brocoli regarde ton ventre fixement. À ce moment précis, tu sais que c'est gagné.
Et qui s'occupera d'elle ?
Tu te redresses et tu enfonces la dernière défense de Brocoli.
Moi ! Et je vous jure que je la lâcherai pas. Ok, je vais être un peu occupée ailleurs pendant 1 ou 2 mois, mais vous allez bien arriver à tenir pendant quelques semaines sans moi.
Madame Schneider regarde Brocoli d'un regard déjà indifférent, distant, comme si elle avait autre chose à faire qu'à perdre son temps avec ses rebondissements et qu'elle était déjà passée à un autre dossier. En résumé, la décision appartient au directeur du foyer. La SE s'en fiche du moment qu'Ophélie Crochet est casée, et la juge des enfants suivra. Brocoli commence à réaliser. Gérer la prairie risque d'être encore plus compliqué s'il me laisse partir que s'il me garde. Tu es capable de monter tous les employés contre lui. J'ai appris au fil de mes années en foyer que le travail des ducs, c'est surtout un travail d'équipe. Et puis Béné, peut-être a-t-il su reconnaître dans un éclair de lucidité que tu étais plus compétente que lui. Tu sors très vite du bureau de Brocoli. Tu ne tiens plus debout, tu te retiens depuis plus d'une demi-heure. Une furieuse envie de faire pipi. Tu ne prends même pas le temps de fermer la porte du tribunal. J'attendais dans le couloir. Tu le traverses tel une furie, en te contentant de me lancer 2 mots à la volée.
Tu restes !
Puis un bouquet d'autres, juste avant de refermer la porte des toilettes.
Mais je te préviens, Follette, je vais pas te lâcher.
Comment te remercier, Béné ? Sans toi, que se serait-il passé ? J'aurais tout laissé tomber. Au milieu des délinquants, j'aurais mal tourné. Exactement comme dans ta prophétie. J'ai tellement honte aussi. Car à ce moment-là, Je ne pense qu'à t'obéir. À réussir, à travailler, à devenir une bonne élève, de celles qui ne se font plus remarquer. À vieillir aussi, en devenant plus jolie. Mais ce n'est pas pour te faire plaisir. Ce n'est pas pour m'en sortir. Ce n'est que pour me venger. De ma poche, dès que tu es partie au WC, je sors la photo. Celle que Nina, avant que l'on soit séparés, m'a glissée. Celle qu'elle a eu le temps de prendre dans la cave du Montfortin, pendant que je caressais Bolduc, avant que l'alarme de chez Vidame ne se déclenche. La plaque d'une voiture noire. Une Volvo 244 Black Star. 5265 JD76.